La Communique est de retour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Thierry Rousse.
Bonjour, Dan Leclerc.
Je suis très, très heureux de te retrouver.
Bah oui, avec toutes nos occupations.
Voilà.
Il faut quand même qu'on s'occupe un peu de nos auditeurs, avec les milliers de lettres qu'on a eues pour nous demander de revenir.
Et d'emails.
Bah, on est là.
Et on est là avec une nouvelle formule que, chers auditeurs, bien, vous allez découvrir. Et aujourd'hui, nous avons décidé bien, d'enregistrer en direct. Ce sera un peu le concept de cette émission. Nous sommes directement ici au Café de la Paix, au plus près de nos auditeurs, au plus près bien, des gens qui nous écoutent et surtout bien, des personnes qui, comme vous, toutes et tous, sont attentifs et bien, à l'actualité. Et nous recevons aujourd'hui, Thierry Rousse, un invité pour réinaugurer cette première...
Un habitué surtout.
Un habitué.
Radio Judaïka depuis très longtemps.
Un fidèle.
Et des lignes d'éco-unir aussi, puisque Raphaël Nizan, dont on va peut-être rappeler rapidement la biographie, son œuvre et sa vie.
Peut-être une question traditionnelle que nous avons toujours, par laquelle nous avons démarré Raphaël Nizan, bienvenue.
Bonjour, bonjour à vous deux, bonjour à la Communique.
On est très très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce Café de la Paix studio, transformé en studio pour Radio Judaïka. Et comme ça fait bien longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de vous avoir, nous allons faire la question traditionnelle de la Communique. C'est Raphaël Nizan, qui êtes-vous et d'où venez-vous?
Oula. Alors je suis avocat à Strasbourg. Voilà, je viens d'une famille honorablement connue à Strasbourg, je le pense.
Nombreuses.
Voilà, nombreuses, on est 5 frères, on a, voilà. Mon père, j'en parlais aujourd'hui avec des amis, mon père a succédé au grand rabbin Hirschler quand celui-ci a été dramatiquement déporté. Le grand rabbin Deutsch avait fait venir mon père et lui a demandé de succéder au grand rabbin Hirschler pour être l'aumônier des camps de concentration de Gurs, Noé, Ressé, Bédou, ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il intègre le maquis des EI.
Il avait la compétence pour être aumônier
religieux.
Oui,
il était élève rabbin. Il était élève rabbin, puis il avait beaucoup fréquenté la Ezraïm avant-guerre. Voilà, donc ça c'est pour ma famille, ma maman André Lévy, son père était médecin dans la vallée de la Bruche dans l'entre-deux-guerres. Et en ce qui me concerne, voilà, je suis avocat, j'ai été maire de Chétiquem, vice-président de l'Eurométropole, qui s'appelait à l'époque la communauté urbaine, j'ai été un temps très bref conseiller départemental du Bas-Rhin, puis toute cette vie politique s'éloignait un petit peu, voilà, j'ai repris mon cabinet dont je m'étais un tout petit peu éloigné, je l'ai en fait refondé en 2014 et je travaille peut-être plus que jamais comme avocat.
Mais vous êtes encore très attentif à la vie publique et à la vie politique.
Oui, alors je fais une chronique sur Judaïka et j'écris pour respectivement parfois Actu J, Tribune Juive et puis c'est avec beaucoup de bonheur que je participe à votre émission.
Nous sommes très heureux de vous accueillir, Raphaël Nizan. Je me rappelle avec émotion de cette émission que nous avions réalisée il y a quelques années avec votre papa dans les studios de Radio Judaïka. C'était un très beau moment pour nos auditeurs que vous pouvez bien sûr retrouver.
On va essayer de retrouver ça dans nos archives.
En podcast. Alors aujourd'hui, on a tenu à vous recevoir, Raphaël Nizan, maître Raphaël Nizan, parce qu'il y a une affaire qui défraye la chronique depuis quelques mois, qui a profondément secoué l'opinion publique, mais pas juste l'opinion publique juive, l'opinion publique tout court. Il s'agit de l'affaire Sarah Halimi.
Oui, c'est une affaire dramatique. Bon, non seulement parce que il y a eu ce crime commis sur Sarah Halimi, elle a été assassinée dans son sommeil, dans son lit, enfin, et elle a été défenestrée. Enfin, tout ceci est dramatique. Et on sait que depuis donc le mois de décembre 2019, eh bien son assassin a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Alors ce jugement a fait grand bruit, particulièrement dans la communauté juive. Beaucoup de nos coreligionnaires et d'autres s'insurgent et surtout ne comprennent pas cette décision, sachant que finalement il y a aussi eu des précédents, et vous avez été vous-même le défenseur de Shalom Lévy, qui a lui aussi été agressé, qui malheureusement est
même
décédé.
Histoire.
Même histoire. L'histoire recommence, l'histoire est finalement répétée, mais nous, juifs, mais pas seulement les juifs, nous ne la comprenons pas. Et je me place là un petit peu en voix du peuple, au peuple de la repentance, de la communauté. Comment est-ce qu'une chose comme ça est possible ?
Alors, moi j'ai mon interprétation. Mon interprétation, c'est que on a évidemment... Alors, on va tout de suite prendre les choses qui fâchent le plus. C'est vrai que l'antisémitisme d'origine islamiste... Alors, l'antisémitisme d'extrême droite, on connaît, on pratique, voilà, c'est toujours condamné. Il n'y a pas de souci par rapport à cet antisémitisme-là. Voilà, quand on les attrape. Mais l'antisémitisme islamiste, celui-là est plus gênant pour plein de raisons politiques diverses et variées. Et donc, quand on peut mettre la poussière sous le tapis, la justice et les politiques le font volontiers. Ça, c'est, je dirais, pour l'environnement général.
En fait, aujourd'hui, il n'est pas reconnu, il n'est pas établi, il n'est pas légiféré. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Si,
on ne le dit pas.
Ce sont les mêmes textes qui régissent les deux. Ce sont les mêmes textes. Mais on est plus accoutumé à l'antisémitisme d'extrême droite qu'à l'antisémitisme islamiste. Et on n'en a pas perçu encore la grande dangerosité. Parce que quand même, depuis maintenant 15-20 ans, des juifs sont régulièrement assassinés parce que juifs, dans le cadre de cet antisémitisme-là, et la société n'en a pas encore pris la mesure. Mais quand je dis ça, je suis un tout petit peu injuste par rapport au système judiciaire français. C'est-à-dire qu'il y a quand même un texte de loi qui permet d'exonérer le responsable s'il est déclaré pénalement irresponsable. C'est le fameux article L122.1 du code pénal. S'il y a une irresponsabilité pénale, le juge n'a pas d'autre solution que de dire on ne va pas juger, il n'y aura pas de procès pour cet assassin-là.
Alors, c'est ça qui me paraît incroyable, Thierry.
Moi, j'aimerais qu'on reprenne... D'abord, je m'adresse à l'avocat, l'homme de loi, au juriste. J'aimerais qu'on reprenne sur deux points. Dépassionnons un peu le débat. Tout d'abord, la forme. On vient de parler de l'article 122L. Est-ce que, tout sur la forme, est-ce que la procédure qui a été faite est tout à fait juste et légale ? Et ensuite, on parlera du fond, où là, on peut reprendre un peu plus passionnément nos points de vue. Mais sur la forme, la démarche judiciaire qui a été faite, est-ce qu'elle est légale ? Parce que nous avons tous eu des débats, ça fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Je connais des médecins absolument non-juifs et pro-sémites et même pour Israël, qui prennent position pour le fait que ce monsieur est irresponsable et qu'il n'a rien à faire en prison. Donc sur la forme, est-ce que la procédure est juste ? D'une part. D'autre part, est-ce que suite à cette procédure, on peut quand même, quelque part, envisager un procès, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de procès.
— Et alors j'ajouterais aussi encore une autre question. On s'en fait beaucoup d'un coup, mais je crois que nos auditeurs et nous posons la question. Qu'est-ce que l'irresponsabilité, selon les textes et selon la législation ? Comment est-ce qu'on la définit ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ?
— Alors on va commencer par le texte. Il est vraiment très simple. Il fait deux lignes. Je vous le lis. « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, donc on se place bien au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Voilà, donc c'est un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli le discernement ou le contrôle des actes. Et cette abolition interdit alors tout procès. Alors mettez-vous à la place des médecins, des juges. Le juge dit, moi je sais pas, ce type-là il m'a l'air bizarre. Il a défenestré une vieille dame en criant « Shaitan, Shaitan, Allahu Akbar, que sais-je encore ». Il s'est comporté bizarrement pendant sa garde à vue. Il n'aime pas les juifs. Est-ce que c'est une phobie normale, pas normale ? Voilà. Donc, le juge se pose des questions sur la normalité, avec plein de guillemets, de la personne qui est en garde à vue ou qui est en détention provisoire. Il commet des experts, psychiatres. Et c'est là que c'est le drame se noue.
Il y en a plusieurs. Hein.
Des experts, souvent.
J'ai lu qu'il y en avait 8 hein, dans
oui,
ce dossier.
Des experts, des psychologues, tout un tas. Et les experts viennent et demandent, vont interroger cette personne et font dans un délai X, Y, Z. Ça met tout de suite beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, la personne est détenue. Et là, ça se passe bien. Je voudrais quand même dire ça. Tant que le type est détenu, il est détenu, il est sous main de justice. Et puis après tout, la prison, ni lui, ne s'en porte plus mal. À réfléchir. Donc, le magistrat prescrit des expertises, et les expertises reviennent, immanquablement, très souvent, avec une abolition du discernement. Et parce que les médecins psychiatres, il faut les comprendre, eux aussi. Je vous pose la question, on aurait chopé Hitler en mars ou en avril 1945, on lui aurait dit
qu'il est fou.
Mais bien sûr.
Il était rempli de drogue.
Il était complètement siphonné. Et donc, c'est un raisonnement qui est tronqué, qui ne peut pas aller. Parce que, évidemment, si on avait attrapé Hitler, il aurait fallu le juger, tout fou qu'il était. Alors, tout le monde n'est pas Hitler, mais les gens qui prennent sur eux de prendre en compte l'agenda islamiste, de dire je vais chercher un juif, je vais le tuer pour... racheter ma place au paradis parce que j'en ai marre, parce que je veux me suicider pour plein de bonnes raisons par ailleurs, ces gens-là qui ont suffisamment de discernement pour faire ça doivent répondre de leurs actes. Et nos psychiatres ne comprennent pas l'agenda islamiste.
Alors, Maître Nizan, il y a deux choses là. Il y a tout d'abord la médecine. Les médecins, d'autant plus des experts qui sont assermentés, qui ont prêté deux fois serment, une fois devant Hippocrate et une fois devant le ministre de la Justice, font leur métier, je pense, en toute bonne foi, d'autant plus que certains sont juifs. Donc il y a un côté éthique. C'est ce qu'on appelle une expertise. Votre maison brûle, il y a un expert qui vient, il estime les dégâts. Et je ne peux m'empêcher de penser à l'affaire Dreyfus, où le pauvre Alfred Dreyfus a été condamné sur une expertise bidon du fameux papier qu'il aurait écrit, où le graphologue dit que c'est Dreyfus qui l'a écrit, qu'il aurait volontairement transformé son écriture.
Le bordereau Esterhazy.
Ouais. Voilà. Et ce bordereau a fait preuve de justice. C'est la même histoire. Et la justice a suivi l'expert. Mais est-ce que, justement, dans le cas de l'affaire Halimi, son assassin devrait quand même se retrouver devant un jury populaire plus que devant des juges et des experts. Et c'est là peut-être que la justice est un peu faussée, c'est que la justice suit l'expertise sur la forme, sur le fond, mais il n'y a pas le fondement profond de chacun, de sa culpabilité ou de son innocence, puisqu'il serait innocent s'il est responsable.
Mais non, je ne suis pas d'accord.
Innocent pas sur le crime, mais innocent dans sa conscience.
722, est-ce qu'il est ? Le juge, à partir du moment où il dit « moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire, je veux, moi, juge, avoir des expertises médicales. » À partir du moment où...
Ça, on le comprend.
Oui, mais à partir du moment où le juge fait ça, il se lie les mains, pour ainsi dire. Parce que...
Il se lie ou il se protège ?
Les deux, mon général. Mais,
il se défile.
Mais il se lie aussi, parce qu'il ne va pas commettre des experts pour aller contre leur avis unanime. Au bout du compte.
Non, mais qu'est-ce qui empêche la justice, après l'avis d'expert, de soumettre ça à un tribunal devant un jury populaire ?
Parce que la justice est tenue de respecter le code pénal. C'est quand même le babubibobu. On se donne des codes, c'est pour les respecter. Et l'article L122, tel qu'il est libellé, ne permet pas de se défiler. Voilà, il y a une irresponsabilité pénale qui est suggérée par tous les experts. Eh bien, il faut suivre cette irresponsabilité pénale. Ça veut dire pas de procès. Donc, que ça nous plaise ou non. Donc, la seule solution pour échapper à cela, c'est la modification
du code pénal.
Et en tout cas, de cet article L122, c'est tout simple. Moi, ce que je propose, c'est qu'on dise que cet article est inapplicable en matière de terrorisme ou de crime de haine. terminé. Tout simplement.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la procédure?
C'est quoi la solution?
La solution de modification du texte, c'est que le gouvernement, parce que ça peut être évidemment une proposition de loi. Alors vous voyez maintenant fleurir des tas de propositions diverses et variées de parlementaires. Elles sont tout aussi ubuesques les unes que les autres. Il y a une sénatrice, je crois, qui a fait une proposition de loi qui ne sort pas de la difficulté, ne permet pas de sortir de la difficulté. Et puis ça ne sera jamais discuté, parce que c'est le gouvernement qui a la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement. Ce n'est donc pas une proposition de loi, ni même par un groupe parlementaire qui doit être faite. C'est un projet de loi.
Alors nous sommes dans les conditions du direct. Hein, c'est le café de la paix.
Inutile de le rappeler.
Un projet de loi déposé par le gouvernement sur le bureau du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, et le gouvernement devrait prendre ça sous sa houlette et dire « Moi, gouvernement de la République, voilà ce que je propose. » Mais
quelle modification ? C'est-à-dire, en fait, on en avait discuté, Maître Nizan, ce que vous souhaiteriez, c'est que oui, il soit reconnu irresponsable, peut-être, mais jugé quand même et soigné en milieu carcéral.
Non, il n'y a pas. Pour le crime de haine et pour les crimes de terrorisme, après tout, Salah Abdeslam, est-ce qu'il est. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas accès au dossier. Le terroriste.
On a un élément qui est quand même différenciant par rapport à tout ça dont on n'a pas parlé, c'est qu'il était sous l'emprise de la drogue.
Oui, ça, on va en parler.
Oui, et attendez, quand on est quand même dans le cadre d'un accident de voiture, si je suis sous emprise de l'alcool ou de la drogue, c'est un facteur aggravant. Oui.
Il avait tout son discernement quand il a pris la drogue.
Et c'est ça la question.
Et il en connaît les conséquences.
Que je n'arrive pas à comprendre.
Il avait tout son discernement quand il a pris la drogue.
Oui, mais dans un certain nombre.
Vous avez tout votre discernement quand vous buvez un coup, et vous ne l'avez plus quand vous partez avec votre voiture.
Alors c'est vrai que le haschich provoque des accès de démence. Voilà. Et les psychiatres ont jugé qu'il y avait eu de la démence au moment des faits.
Suite à une prise de consommation de produits illicites, qui, je le rappelle quand même, Maître Nizan, c'est vous qui nous le direz, est un facteur aggravant dans le cadre d'un accident de voiture.
Alors, oui.
Pourquoi, dans ce genre de cas, comment est-ce qu'une chose comme ça est possible, et comment, et surtout, est-ce que c'est acceptable? On ne l'accepte pas parce qu'on en parle.
Et c'est alors, là que si se pose la question de l'influence de l'environnement politique.
Si vous dites vrai, et d'ailleurs on est dans un dossier suffisamment politique pour que ça
et médiatique.
Puisse être le cas, voilà. Si vous dites vrai, la Cour de cassation cassera, infirmera et renverra devant la juridiction qu'elle voudra.
Il n'y aura plus d'expertise.
Ça dépend. La Cour de cassation peut casser le tout et renvoyer. Et alors,
on repart à zéro alors.
Et on repart à zéro.
Expertise, oui. Etc.
Oui, la Cour de cassation peut faire ça. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Dreyfus. C'est la Cour de cassation qui avait démêlé l'affaire en rendant un arrêt de cassation en chambre réunie, je crois, et en rejugeant définitivement le capitaine Dreyfus.
Au civil, pas au militaire.
Oui, bien sûr, la Cour de cassation,
jusqu'à présent, il était jugé
faire ça.
Par le militaire. Alors, il y a un autre élément de complémentarité, Thierry Rose, qu'il me semble important de pouvoir donner, c'est qu'on a des faits parallèles avec Zivon Olivera, Shalom Lévy, et j'ai lu dernièrement l'article de la sœur de l'assaillant de Shalom Lévy, dont on ne donnera pas le nom, bien évidemment, dans les dernières nouvelles d'Alsace, qui précisait que sa sœur avait demandé à ce que son frère soit interné. Et elle a eu réponse morte, aucune réponse des autorités, sous peine qu'il n'y a pas de place, qu'on ne pouvait pas le prendre, parce qu'il avait déjà été détecté, lui, en tant que malade.
C'est un dossier que je connais un petit peu pour d'autres raisons. Il y a eu l'année dernière un jeune homme, une trentaine d'années, qui s'appelait Yann de son prénom, qui est mort dans la rue. Il était il avait un gros problème d'addictologie et il s'est volontairement présenté en psychiatrie pour se faire soigner parce qu'il était en manque. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour lui. Il y a un déficit de 30% des lits en milieu hospitalier psychiatrique, particulièrement dans les milieux fermés, je crois. Et on l'a renvoyé et le pauvre en est mort dans la nuit d'après. Donc effectivement, on n'a peut-être pas non plus les moyens de nos ambitions de soigner tout le monde comme on devrait les soigner, de les suivre, tout comme on n'a pas les moyens non plus, je crois, de suivre tous les fichiers S et de surveiller tout ce qui se passe.
Enfin, pour en revenir au meurtrier de Shalom Lévy. Il avait déjà, dans les mêmes circonstances, agressé au couteau, au cri de Allah Akbar, un homme juif.
En 2011.
En 2011, dans les rues de Strasbourg. Il avait fait 18 mois de détention provisoire pour être déclaré finalement pénalement irresponsable, avec une interdiction de séjour de 10 ans, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus mettre les pieds à Strasbourg.
Avant 2021.
Avant 2021. Ouais. Et voilà Tipa que, évidemment, peu de temps après, il ressort de l'hôpital psychiatrique, qu'il recommence des agressions, des incivilités, et qu'il est condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui ne relève pas qu'il était,
était
interdiction de séjour.
Non,
il était interdit de séjour, mais il n'a pas été emprisonné, mais c'était pas des choses.
Et on ne l'emprisonne pas parce que, d'abord, forcément, c'est pas forcément jugé, mais on n'a pas de place non plus. Parce
qu'il aurait dû l'être, mais voilà, il ne l'a pas été. Et puis, voilà, qui recommence au détriment de Shalom Lévy, Allahu Akbar. Il le poignarde après avoir cherché un juif toute la matinée dans les rues de Strasbourg, et il le poignarde avenue des Vosges. Et Shalom Lévy, qui était à l'époque en bonne santé, est maintenant décédé. Je trouve l'affaire Shalom Lévy dramatique.
Elle l'est évidemment sur tous ces points. Vous avez été le conseil de Shalom Lévy à cette époque, et c'est évidemment injuste et rendu hommage que de l'évoquer et que de partager ce cas pour que, évidemment, ça ne se reproduise plus et que l'on puisse faire les liens ici avec l'affaire Halimi et sur les différentes conséquences et surtout actions que nous pourrons avoir ou que vous pourrez avoir ou que nos institutions pourront avoir pour que ça n'arrive plus.
Oui, c'est une affaire terrible. Bon, au mois de septembre 2019, Shalom Lévy a été très déçu de voir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar prononcer l'irresponsabilité pénale de ce monsieur. Et donc moi, j'ai, à cette époque-là, redit à la cour d'appel qu'il y avait eu, c'était la deuxième fois, avec le même personnage, et qu'on pouvait craindre une troisième agression de même nature. Parce qu'il faut bien savoir qu'on perd toute traçabilité de l'individu, de l'agresseur, à partir du moment où il sort de prison. Là, pour cette deuxième fois, il a séjourné 3 ans en prison. Ça s'est très bien passé, de 2016 à 2019. Et il a été libéré en septembre 2019 pour être immédiatement placé dans un établissement psychiatrique dont il peut ressortir le lendemain, ou 3 mois après, ou 1 an après. On a plus aucune vision de ce qui se passe à partir du moment où il est en hôpital psychiatrique, il faut le savoir.
Alors ça aussi, ça c'est important, c'est vrai que quand on est en HP, donc en hôpital psychiatrique, il n'y a pas de c'est pas un milieu carcéral, c'est un HP. C'est un,
non, mais il y a des milieux fermés quand même.
Non, mais non. Le milieu est fermé jusqu'à ce que les médecins vous lâchent.
Pour protéger les gens.
Mais d'accord, mais ce n'est pas un milieu fermé. La présidente de la chambre de l'instruction a dit au médecin expert, dites-nous, monsieur l'expert, parce qu'elle était catastrophée de devoir rendre cette décision. Elle lui a dit, dites-nous que vous allez le garder longtemps. Et l'expert a répondu à la présidente, madame la présidente, non, je ne peux pas vous dire ça, parce que nous sommes des médecins, pas des gardiens de prison. Donc il ne faut pas confondre, oui, il y a un placement en milieu fermé, mais on peut sortir du milieu fermé à la demande du corps médical, parce qu'il n'y a pas ils n'ont absolument pas vocation à conserver les gens 5 ou 10 ans en milieu fermé. Absolument pas. Et ça n'est pas du tout. Ils ressortent, ils laissent les gens ressortir lorsqu'ils les estiment soignés. On soigne dans les hôpitaux psychiatriques, on n'enferme pas. C'est ça le drame que nous vivons, c'est que nous avons un certain nombre d'islamistes qui ne sont pas en très bonne santé mentale, bien sûr, mais tout comme en Israël, lorsqu'on retrouve des gens qui se sont fait exploser et qui se sont mis des bandelettes pour être tout de suite efficaces quand ils arriveront au paradis avec les 70 vierges, est-ce que ce sont des gens qui ont toute leur tête ?
On peut se poser légitimement la question.
Alors là, on a vu un petit peu les procédures judiciaires, la forme, etc. Parlons un petit peu du fond et de l'émotion, et particulièrement de l'antisémitisme. Parce que là, on a parlé de ce déni de justice, ce que j'appellerais un déni de justice, parce qu'on voudrait tous que ce monsieur passe, M. Traoré passe devant une cour d'assises, mais suite après la cassation. Maintenant, reste encore le gros problème de l'antisémitisme qui n'a pas été nié dans ce cas. Comment peut-on alors... est-ce qu'on peut séparer cette procédure judiciaire qui le déclare irresponsable du fait qu'il soit antisémite.
Alors, le déni de justice d'abord. Vous avez utilisé cette expression, le déni de justice. Malheureusement, dans l'état actuel du code pénal, ce serait si on commençait à le juger. Puisque le déni de justice, c'est ne pas appliquer les textes applicables. Voilà, donc on est à l'inverse du déni de justice. C'est pour ça, quand j'ai vu que le grand rabbin écrivait une lettre ouverte à la garde des Sceaux, Chaim Corsia, je me suis dit, la démarche est bonne, mais à condition de lui demander de changer la loi. Mais si la loi reste telle qu'elle, la ministre ne peut pas se mêler d'une affaire en cours. Ça serait même méconnaître le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
J'en avais fait la demande dans votre nom au Consistoire central.
Oui. Et grâce à toi, j'ai rencontré effectivement Joël Mergui, qui était de passage à Strasbourg. Je lui ai exposé cette nécessité de changer la loi. Il a eu l'air d'être à l'écoute, hein. Mais pour le moment, ce n'est pas... je crois que quand il y a eu des débats, de toute façon, après, vous mettez 10 avocats autour d'une table, vous avez 10 avocats différents.
10 avis différents.
Et 10 avis, oui, pardon, 10 avis différents.
Même des avocats juifs, hein, ça marche.
et donc, j'ai vu une tribune d'avocats juifs qui disait, mais la loi est très bien, bon, fort bien, mais alors continuons comme ça. Mais on sent très bien qu'il ne faut pas continuer comme ça et qu'on permet... Alors là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le dernier cinglé qui est sorti comme ça, pieds nus, en djellaba, et qui a poignardé les gens au hasard, à Villejuif, au hasard.
Bien sûr, bien sûr.
Toujours à Villejuif, parce qu'il croit qu'il y a des juifs là-bas. Donc le gars qui a fait ça, il poignardait les gens en leur disant, et il leur courait après, et là-bas vos lèvres, en leur disant... Je suis un fou. Ça devient très pratique.
Il a d'ailleurs épargné un co-religionnaire, lui.
Il ne l'a pas reconnu.
Il a épargné un de ses co-religionnaires à qui il a demandé de dire une prière.
Mais tout comme le terroriste de Strasbourg, il a épargné le chauffeur de taxi parce qu'il a vu qu'il y avait des symboles islamiques dans son taxi. Il ne faut pas... Et pour le malheureux Afghan... qui a été assassiné toujours par le même terroriste de Strasbourg, probablement qu'il a oublié de lui demander de dire sa shahada, sa profession de foi musulmane. Ce sont des gens quand même qui font le tri. Ce sont des assassinats racistes.
Ouais,
le tout sans discernement, on plaisante.
Oui.
Alors, d'ailleurs, ça, il faudra peut-être qu'on en parle aussi tout à l'heure, Maître Nizan. On pourra aussi parler de cette motion Maillard. Sur l'antisémitisme et l'antisionisme.
Qui a fait grand bruit. Hein. Peut-être,
grand
peut-être
bruit, parce que là, il y a aussi un côté juridique que même Jean-Louis Debré n'a pas soutenu cette motion parce qu'il pense que les lois sont suffisantes.
Alors, il serait peut-être bon, si vous êtes d'accord, pour nos auditeurs et pour tout le monde, de remettre, Thierry, je sais que tu connais particulièrement bien ce dossier, cette motion Maillard, qu'est-ce que c'est ? C'est juste peut-être le redonner en quelques mots. Hein. Ou Raphaël, évidemment...
La proposition Maillard, c'est de reprendre une proposition qui est maintenant quasi unanimement reconnue en Europe, en tout cas par les parlements et les gouvernements, et qui incrimine aussi, mais sans le faire au plan légal, mais qui met en cause l'antisionisme. Grosso modo, il est dit que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme dans certains cas.
Donc, oui. Bon, il n'y avait pas que ça dans cette motion, mais c'est ce qu'on en a retenu qui était le
cas. C'en est la synthèse.
Donc, ce texte n'est pas un projet de loi, c'est pas une loi, c'est juste une motion, une résolution qui prend acte. Ça n'a pas d'influence sur la justice et sur les lois. Mais il y a eu pas mal de défilades, notamment dans la majorité, de gens qui ont préféré aller faire pipi plutôt que de voter. Il y a eu des courageux. Ce texte est passé. Il fait encore débat, d'ailleurs. Et dans le prochain numéro d'Écho Unir, vous pourrez lire une interview du député Maillard à ce propos. Cependant, est-ce que la loi... Là, on a vu que pour l'article 122 LR, la loi était incomplète. Est-ce que l'antisémitisme est bien protégé par la loi en France ? Il me semble que oui. Est-ce que la loi couvre toutes les formes d'antisémitisme ?
La réponse, excuse-moi, est dans la question. Bien sûr que la loi ne couvre pas, puisque on a maintenant plusieurs dossiers criminels où, effectivement, les criminels échappent totalement à toute sanction pénale. et échappent à la visibilité de la justice. Ils échappent aussi à la confrontation avec leurs victimes et avec notamment les familles des victimes. Donc c'est très dramatique. Ceux qui sont d'accord avec ça, moi je ne les comprends pas. Et puis alors sur l'antisionisme, les gens qui disent... Alors Israël fait partie du droit positif international. Depuis que l'ONU a voté la création de l'État d'Israël, on n'a plus le droit d'être contre Israël. Est-ce qu'on serait, nous, d'accord avec une organisation qui dirait « je suis contre la France, je veux la disparition de la France et de ses 67 millions d'habitants ».
Mais évidemment, présenté comme ça, ça nous semble une aberration. Mais dès qu'on parle d'Israël, ça catalyse les foules.
Mais même
dans notre propre camp,
il ne faut pas le tolérer. Je veux dire, c'est intolérable. L'adresse des intellectuels juifs, des 160 ou 200, je ne sais plus, soi-disant intellectuels juifs, qui disent qu'il ne faut pas admettre la proposition Maillard, cette adresse est criminelle. D'ailleurs, dans leur adresse, ils osent dire que bien des morts de la Shoah, bien des morts juifs de la Shoah, étaient antisionistes. Ce qui n'a aucun sens technique, aucun sens, parce que au moment de la Shoah, d'abord la Shoah, bien sûr, elle a pu se faire parce qu'il n'y avait pas Israël. Au moment de la Shoah, il n'y avait pas Israël. Donc l'antisionisme n'a pas le même sens. Les gens, ils n'étaient pas sionistes, ils ne pouvaient pas être sionistes, il n'y avait pas d'État d'Israël. Donc ce sont des faussaires, des gens qui ont la détestation d'eux-mêmes et qui veulent la disparition d'un État avec 9 millions d'habitants. Et chacun sait bien que cette disparition ne peut pas être pacifique, qu'elle va incomber la mort des 7, impliquer pardon, la mort des 7 millions de juifs qui habitent à l'heure actuelle en Israël. Les gens qui veulent la mort de 7 millions de juifs sont des gens qui prônent une Shoah bis. Comment peut-on suggérer que l'antisionisme serait une idée juste ? Non.
Oui, c'est indéfendable, évidemment.
On confond le fait de ne pas être d'accord avec la politique de tel ou tel gouvernement d'Israël, ou avec la colonisation, ou que sais-je, avec l'antisionisme. Mais l'antisionisme, le fait de vouloir boycotter Israël et de vouloir faire disparaître ce pays, est une opinion authentiquement antisémite, et c'est même la seule opinion antisémites qui vaillent à l'heure actuelle. Ça sert à rien. Les cinglés qui vont mettre des croix gammées dans les cimetières, c'est évidemment très déplaisant, mais c'est pas eux qui menacent les juifs de ce pays et les juifs dans le monde. Ceux qui menacent les juifs dans le monde, et en France en particulier, et à Strasbourg pour ce qui nous concerne, ce sont les antisionistes, parce qu'eux, ils ont un discours pratique et qu'ils mettent en application au jour le jour.
Je reprendrai juste une phrase que tu as dit, Raphaël, sur le sionisme. Le sionisme n'est pas seulement un mouvement récent politique. Le sionisme est un mouvement de pensée qui est né au XIXe siècle avec tous ces mouvements on ne va pas dire nationalisme, mais c'était l'émancipation des peuples au XIXe siècle, après la colonisation. C'était un mouvement que Herzl a promu lors du procès Dreyfus, mais c'était un mouvement de pensée. Et Sion n'est rien d'autre que l'image de Jérusalem. Et donc c'est le droit au peuple, aux nations, d'avoir une terre, puisque les terres étaient pratiquement toutes colonisées par l'Empire ottoman, par l'Angleterre, la France, le Portugal, la Hollande et j'en passe. Et tout comme certains peuples comme les Arméniens, comme les Kurdes, aspirent à avoir une terre. Donc à partir du moment où c'est un mouvement de pensée, non un mouvement politique, puisqu'on assimile souvent au sionisme, au Likoud, etc. Non, c'est un mouvement spirituel, plus qu'autre chose. Et donc le déni de ce mouvement spirituel, c'est le déni de la base du judaïsme, le retour à Sion.
Oui, mais là tu es dans le débat d'idées qui t'honore. Mais en fait, les antisionistes qui gueulent mort à Israël dans les rues de Téhéran ou dans les rues de Sarcelles, en se précipitant vers la synagogue...
Ou en Allemagne,
ou partout ailleurs.
Mort aux Juifs,
c'est mort aux Juifs, bien sûr, et personne n'est dupe. Et c'est pour ça que les idiots utiles qui disent « Ah ben non, moi je suis à fond contre l'antisémitisme, mais je suis à fond antisioniste », ceux-là se moquent du monde. Et ce sont de vrais ennemis des juifs, parce qu'on ne peut pas être anti-sioniste et être ami des juifs, c'est impossible.
Même quand ils le sont eux-mêmes.
Mais c'est... Même quand ils le sont eux-mêmes. Il y a des gens qui ont des idées suicidaires ou qui ont la détestation ou la haine de soi. Et puis, il y a plein de gens aussi qui se croient plus malins que les autres et qui aiment bien dire que eux, quand même, ce sont de bons juifs. Bien fréquentable par les anti-sionistes et que, grosso modo, il y a des juifs infréquentables, c'est les juifs sionistes, et il y a des juifs fréquentables, c'est les juifs anti-sionistes. Donc cela, ils se rachètent une conduite, mais en prenant un antisémitisme qui n'est pas de façade.
En fait, en plus, s'opposer au droit au peuple juif ou à la nation juive, appelez-le comme vous voulez, d'avoir une terre, c'est s'opposer à l'ONU. Ça, c'est pour commencer. Il y a d'ailleurs une histoire que raconte Jean-Louis Debré, de son grand-père ou son arrière-grand-père, Simon Debré, qui était rabbin. Il était rabbin où ?
À Westhofen.
Il devait être grand rabbin de France. Sauf que pour lui, la création d'un État juif n'avait pas de sens, puisqu'il était tellement patriote et français qu'il ne pouvait concevoir une terre juive. Et ça lui a coûté le poste.
Oui, mais bien sûr, on est à une autre époque.
Voilà, c'est une question d'époque aussi.
Oui, on est à une autre époque.
C'était avant la Shoah, bien sûr.
Voilà, et l'ONU a créé l'État d'Israël. La discussion sur l'existence de l'État d'Israël est une discussion frappée d'obsolescence au point de vue du droit international. Elle ne l'est pas dans l'état d'esprit des Palestiniens, des Arabes, malheureusement de beaucoup de musulmans. Quand vous vous promenez dans les rues de Jérusalem, dans la vieille ville, vous voyez la carte de la Palestine décrite sur chacun des drapeaux qui sont ou des oriflammes qui sont là en vente. Et bien sûr que la Palestine, pour eux, elle comprend Haïfa, Tel Aviv et toute la bande côtière.
Qui n'existe que depuis un siècle.
Et il n'y a rien pour Israël. Donc cette absence de reconnaissance, cette volonté de s'asseoir sur la résolution de l'ONU qui a créé Israël, eh bien, cela est authentiquement antisémite.
Je voudrais poser une observation par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qui est assez frappante et finalement très représentative de ce que nous vivons et de ce qui se passe. Vous voyez, on parle de l'affaire Halimi, on parle de Shalom Levy, on parle de tous ces sujets qui nous touchent ici en France, et naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Nous dérivons vers Israël, et ça marche exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël nous touche immédiatement ici en France, en Europe, dans le monde, Israël étant un carrefour international de la politique internationale et puis finalement des tensions dans le monde, parce que c'est une zone sismique qui dont l'épicentre est Israël, mais qui nous amène, à recevoir les secousses. Et naturellement, je crois qu'il faut le comprendre, il faut surtout y être attentif par rapport à tout ce que vous avez dit, Raphaël Nizan, sur quoi nous avons échangé, c'est que ce qui se passe là-bas nous touche directement ici. Il faut qu'on y soit doublement sensible, qu'on en soit un soutien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. L'important, c'est quand même néanmoins de le soutenir et d'avoir les idées claires pour savoir vers où va le vent.
Moi, je suis très frappé, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis très frappé que le président Macron, lors de sa visite, d'abord... il n'est pas foutu les pieds en Israël depuis qu'il a été élu.
Il y sera dans quelques jours.
Il y va, et qu'est-ce qu'il va faire ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur la tombe de Sarah Halimi et d'Ilan Halimi. Les tombes sont là-bas. Alors, on peut apprécier comme on veut ce geste. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas. Je préférerais qu'il aille visiter des kibboutzim, mais voilà. Il y a peut-être là une reconnaissance d'une certaine criminalité antisémite en France, et il va quand même se recueillir sur la tombe de nos co-religionnaires qui, elle, se trouve en Israël. C'est d'ailleurs en Israël qu'elle peut ne pas être profanée, soit dit en passant.
Mais il va aussi s'incliner, rappelons-le, sur la tombe de citoyens français.
Alors, nous suivrons bien évidemment cette visite d'Emmanuel Macron en Israël. Ce sera l'objet d'une prochaine communique qui touche tout doucement, cher Thierry, à sa fin. C'était la reprise de la communique avec Raphaël Nizan. Sujet très sensible, très chaud, que nous ne manquerons pas d'observer et surtout de commenter avec des analystes et puis les gens qui font la vie strasbourgeoise, qui font la vie française, tout simplement, parce que c'est important d'avoir cet écho et cet écho naturel pour pouvoir le ressentir et le partager. Les sujets abordés ont été complexes. Il y a encore beaucoup de réponses et beaucoup de questions qui se posent. Nous n'avions pas la prétention de pouvoir y répondre à tous, mais tout au moins d'interroger et d'avoir quelques éléments par quelqu'un qui a pu suivre l'affaire et surtout qui a la légitimité en tant qu'avocat pour les commenter. Un grand merci, Raphaël Nizan, d'être venu au ce café Radio Judaïca de la paix.
Je tiens à remercier Maître Nizan non seulement pour son engagement dans la communauté, dans nos médias, c'est-à-dire Radio Judaïca, où il y a un billet hebdomadaire remarquable, mais vous pouvez également lire Raphaël Nizan dans la presse communautaire Écho Unir et Tribune Juive, de temps en temps dans ActuJ aussi, je crois, et surtout remercier infiniment Maître Nizan pour son engagement professionnel auprès des victimes. Il est toujours présent, je me rappelle, à quelques mètres du café où nous sommes. Un monsieur s'était fait tabasser par un voisin sur des propos antisémites. Je suis venu au chevet de ce monsieur à l'hôpital, j'ai appelé Maître Nizan qui s'est immédiatement rendu à l'hôpital et a accompagné la victime qui devait partir en Israël le lendemain, porter plainte en pleine nuit, et nous sommes tous infiniment reconnaissants, Maître Nizan.
Merci de votre invitation et de vos si gentils propos.
Merci Raphaël. Thierry, il ne reste plus qu'à nous dire
au Café de la Paix, on se dit santé pour la nouvelle année.
Voilà, et shalom, bien évidemment, pour toutes et tous. Et nous proposerons dans les semaines et jours à venir, évidemment, le programme de nos interviews, les lieux où vous pourrez nous retrouver pour
sur
pouvoir participer sur le zinc de Radio Judaïca dans les cafés. Merci Thierry Rosse.
Merci à toi, Dan.
Très bien. Suite aux différents événements que nous avons relatés tout à l'heure en compagnie de Maître Raphaël Nizan et Thierry Rosse, il nous semble intéressant d'aborder maintenant les réactions et surtout les actions que nous pouvons entreprendre suite à ces différents événements tragiques que la communauté juive a traversés. Je suis avec Jonathan Béard, entrepreneur et dirigeant d'une entreprise de conseil à Paris. Il est co-organisateur de la marche avec Eddie Suissa. Jonathan Béard, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous, à nos côtés, sur Radio Judaïca Strasbourg. Vous êtes co-organisateur avec Eddie Suissa de La Marche. Qu'est-ce que c'est, La Marche ?
Alors, La Marche, c'est un mouvement qui a été initié par Eddie Suissa le 5, pour le 5 janvier, en fait, où il voulait initialement un rassemblement qui soit place de la République. Alors, j'ai trouvé l'idée bonne, j'avais moi-même fait quelques runs à moto, donc quelques défilés à moto, pour Sarah Halimi depuis 2017, donc on en a fait 4, et l'objectif était de dire, puisque cette affaire a l'air de passer sous silence, on va faire du bruit pour Sarah. Puis quand j'ai vu l'initiative d'Eddie qui croisait la mienne, effectivement, suite au jugement, eh bien j'ai dit, écoute, joignons nos forces et puis faisons quelque chose de grand ensemble.
Alors à l'origine, j'attends, c'était 300 motos qui étaient prévues, vous ne saviez pas exactement combien vous alliez mobiliser de personnes, et vous êtes retrouvé place de la République avec 4000 personnes et 300 motards. Alors finalement, pourquoi les motards ?
Alors les motards, c'est assez important, et je tenais depuis le début à ce qu'il y ait des motos, parce que finalement, d'abord ça fait du bruit, et il fallait faire du bruit pour Sarah. Je rappelle juste que l'affaire était en pleine période des élections et que donc elle a failli passer sous silence. Et donc la première manifestation était un défilé de motos en disant on va faire du bruit pour ça. Et puis ensuite, les motos, il y a ce côté un peu combatif, on arrive, on fait du bruit, il y a ce côté un peu conquérant, si vous voulez, comme on arrive comme dans Braveheart quand ils débarquent avec leurs drapeaux sur leurs chevaux, et là on débarque sur nos motos et également avec des drapeaux. Et je trouve que ça renforce l'image de la manifestation. Et ça réveille l'esprit combatif chez les gens, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
L'idée est originale, elle est importante, impactante également dans ce monde où, justement, on a vu des marches silencieuses, des marches où on ne dit rien, des manifestations où on ne dit rien. Là, vous vous exprimez avec du bruit et surtout avec ferveur et avec envie. Parce que votre credo, c'est un peu de dire on ne peut pas rester comme ça, à ne rien faire.
Exactement. Encore une fois, depuis le début, j'ai été très peiné par l'affaire Sarah Imer. Je ne connaissais pas du tout Sarah, ni ses proches, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est pas possible que quelque chose comme ça se passe, qu'une femme soit battue à mort, défenestrée, et que moi je reste tranquillement dans mon canapé. Alors, sans me comparer, mais on a bien sûr, chez nos patriarches, toute cette image d'Abraham qui a été combattre les 4 plus grands rois pour sauver son neveu Lot, Esther qui était princesse et qui s'est mise en danger pour sauver son peuple, ou encore Yonah qui, lui, a été se rebeller contre la moralité, du créateur de la moralité, c'est-à-dire Dieu. Alors on a toutes ces images chez nous, et je me suis dit, tu ne peux pas rester toi chez toi avec tout cet héritage que tu as et puis attendre que ça se passe.
Un nouveau prophète, Jonathan. Vous vous êtes évidemment pas arrêté là. L'idée était place de la République, mobiliser du monde, les motos, 4000 personnes. Et vous êtes ensuite allé au cœur de la problématique dans le quartier de Belleville.
Exactement. Donc, on est, nous, partis de Nation avec les motos pour aller rejoindre les publics, Place de la République. Et ensuite, eh bien, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller justement à Belleville, quartier où on n'est pas forcément les bienvenus. Et là, débarquer à 4000 là-bas, chanter la Marseillaise dans la rue, demander justice pour Sarah, et puis surtout faire notre version du Y'en a marre pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous laisse googliser sur YouTube le petit Y'en a marre qu'il y avait eu pour les sans-papiers, qu'on a remixé avec nos propres slogans, à savoir le terrorisme, Y'en a marre, la violence, Y'en a marre, les Kalachnikov, Y'en a marre, l'antisémitisme, Y'en a marre, l'injustice, Y'en a marre. Et donc, en le chantant vraiment sur le même rythme, avec, vraiment avec une ferveur, on avait des gens, on avait 4000 personnes. Alors, les gens me disent, pas 4000 personnes, c'est pas énorme, mais j'ai envie de leur dire qu'on n'avait pas 4000 personnes, on avait 4000 combattants, et puis en même temps, les forces d'élite ne sont jamais très nombreuses, et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas efficaces.
Vous me faisiez remarquer, Jonathan, que à l'instar de notre génération, petit quadra, dirons-nous, nous n'avons pas vraiment l'habitude, ni dans notre esprit, de nous rebeller. C'est un petit peu les anciens nos patriarches auxquels vous faisiez référence, et la génération d'au-dessus qui vous a fait une remarque à ce sujet.
Oui, justement, je me disais avec cet événement, eh ben, j'ai plein de nouveaux amis sur Facebook, et tous ces nouveaux amis, eh bien, ont l'âge de mes parents, de la génération au-dessus. Et puis une amie me faisait remarquer, à juste titre, Julie me disait, tiens, Jonathan, tu sais pourquoi ? Parce que tu réveilles en eux un peu cet esprit de mai 68. Et c'est vrai que nous, notre génération, et puis celle qui suit, on a plutôt l'habitude, eh bien, d'être sur les réseaux sociaux. Et en fait, eh ben, à un moment, il faut se mettre en mouvement, il faut aller dans la rue, il faut descendre, il faut gueuler, il faut mettre son corps en mouvement, il faut aller pousser un peu de la voix et puis sortir de chez soi, quoi. Oui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un impact énorme, mais ça se passe aussi dans la rue parce que le fait de se retrouver, le fait d'être tous ensemble, il y a une énergie qui se crée, il y a quelque chose de très fort. Et puis, on a eu un impact médiatique qui a juste été colossal. Alors, pour ça, d'ailleurs, je dois dire qu'on a eu l'aide de beaucoup de personnes qui veulent rester dans l'ombre et qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire venir tous les grands médias, TF1, France 2, France 3, Canal, CNews, BFM, évidemment I24, et on les a tous eus ce jour-là parce qu'aussi des gens ont travaillé dans l'ombre. Voilà, donc il faut arrêter de rester dans son canapé, peut-être derrière les réseaux sociaux, à dire qu'on va faire le job, il faut un peu sortir de chez soi, aller frapper du poing dans la rue. Je pense que c'est aussi important de réveiller cet esprit mai 68, et si vous le permettez, j'aimerais aller un peu plus loin dans l'idée. C'est de dire que mai 68, les gens se battaient pour un idéal, c'est-à-dire qu'ils habitaient la France, puis se disaient maintenant on va se battre pour que la France aille vers notre idéal, aille vers notre idée. Alors que là, aujourd'hui, on se dit bah, ça va pas, société de consommation, on change de pays, on déménage, etc. Alors non, on est en France, on est citoyen français, et on va se battre pour que la France, eh bien, corresponde à nos idéaux, puis surtout à l'image, à la grande France, à l'image de la grande France qu'on se fait de pays des droits de l'homme. Donc il est indispensable que justice soit faite pour Sarah. On mènera le combat sur place parce qu'on est des citoyens français, et on ne lâchera pas le morceau jusqu'au bout.
Jonathan Béard, merci beaucoup. On trouvera bien sûr toutes ces informations sur le www.radiojudaïcastrasbourg.fr avec les liens des grands médias que vous avez cités au préalable. On espère bien évidemment qu'on n'aura pas à repartir, qu'on aura le moins possible, voire plus tout à faire ce genre de choses dans le futur. Mais en attendant, il est important de se faire entendre, de faire du bruit et d'être présent et surtout de se manifester. Merci Jonathan Béard.
Merci beaucoup.
À très bientôt et merci à Monica pour la réalisation. Communiquer.